Le journal, bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Un congrès pour protéger la biodiversité. Marseille, encore une fois à la une ce soir. Pour le congrès mondial de la nature et toujours deux visions de l'écologie. Les petits pas ou l'électrochoc. Nicolas Hulot reproche à Emmanuel Macron de ne pas faire plus et plus vite, faisant référence à la place de la biodiversité dans le plan de relance. Le chef de l'État n'est pas d'accord, on a vérifié. Dans l'actualité, encore un coup de filet après la série de règlements de compte de l'été dans la cité phocéenne. Précision il y a quelques minutes du procureur de Marseille. Pas de rendez-vous à prendre si vous voulez vous faire vacciner ce week-end, ce sera quand vous voulez. La fin du conflit entre AstraZeneca et l'Union Européenne sur la livraison des doses de vaccins anti-Covid, un accord a été trouvé. Et puis la Mostra de Venise et le film événement de la journée Dune qui est projeté en cette fin de journée. Au téléphone sonne Claire.
Eh bien on va faire le point sur la situation sanitaire aux Antilles. Les mesures de confinement mises en place ont permis de faire baisser le taux d'incidence, mais il est encore de plus de 1000 en Guadeloupe, de plus de 640 en Martinique. Dans les hôpitaux, la situation reste critique. Les évacuations de patients se poursuivent, les renforts continuent d'arriver. On aura des témoignages édifiants. On parlera aussi de la vaccination qui démarre, mais très doucement. On se demandera pourquoi. Alors que vous soyez aux Antilles ou dans l'Hexagone, on attend vos témoignages au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il y a trois fois moins d'animaux sur Terre qu'en 1970. 30 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans. Quelle solution ? Quel avenir pour la biodiversité ? La troisième journée d'Emmanuel Macron à Marseille coïncide avec le congrès mondial de la nature qui s'ouvre en ce moment même. On attend une prise de parole du chef de l'État, Célia Quiret, en direct de Marseille. Bonsoir Célia, avec François Rivalan.
Bonsoir Hélène.
Emmanuel Macron s'est déjà efforcé de se présenter aujourd'hui en défenseur de la biodiversité marine.
Oui, et à l'instant, Emmanuel Macron a commencé son discours aux côtés notamment de l'acteur Harrison Ford ou de sa ministre Barbara Pompili. Et en effet, pour lui, l'océan est une priorité. Il va même consacrer un sommet à l'océan cet hiver. Ce matin, il a passé plusieurs heures en mer, notamment sur le bateau 7e continent dédié à la lutte contre la pollution plastique. Nicolas Hulot, qui était à ses côtés, attend un électrochoc. Mais pour le moment, les annonces concernent surtout les aires marines protégées. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune zone vraiment préservée en Méditerranée, à part le parc de Porquerolles, une partie de la Côte Bleue ou la réserve de Banyuls. En 2027, le président veut que la France soit capable de préserver 5% des façades françaises de la Méditerranée. Cela veut dire plus de pêche, plus de navigation dans ces petites zones. C'est un premier pas, même si cela ne suffira pas si 95% de la Grande Bleue, c'est-à-dire tout le reste, n'est pas mieux protégé. En tout cas, l'Élysée veut passer un message ce soir. La bataille pour le climat et celle pour la biodiversité sont jumelles. Le président à l'instant l'a redit, les agendas doivent être mêlés et il n'y a pas, dit-il à l'instant, de vaccin pour une planète malade. C'est une première victoire pour les défenseurs de la nature qui se sentent souvent relégués au second plan. Mais des ONG comme Greenpeace doutent que la France soit vraiment prête à lutter par exemple contre la surpêche. D'ailleurs, ce congrès ne sera en rien contraignant pour les États. Des motions seront votées et elles alimenteront des négociations qui auront lieu en Chine en avril. La ministre Barbara Pompili est évoque une décennie à venir cruciale pour l'environnement, mais tout cela avance assez doucement.
Célia Quiret en direct de Marseille et ce matin, Emmanuel Macron que l'on entendait derrière vous a pris le bateau avec son ancien ministre Nicolas Hulot, la photo du jour, qui n'a pas manqué de mordant. L'ancien ministre rappelant le peu de moyens dédiés, juge-t-il, à la biodiversité dans le plan de relance.
Je demande, avec d'autres évidemment, avec tout le milieu associatif, avec tous les acteurs de la biodiversité, un électro choc, qu'on change d'échelle. Actuellement, dans le plan de relance, il y a 0,25% du budget qui est consacré à la biodiversité, c'est largement insuffisant. Il faut augmenter le nombre de zones protégées et les moyens qui sont affectés à la biodiversité.
0,25%, ce n'est pas suffisant, le président lui a répondu.
Non, c'est beaucoup plus, parce que tout le plan protéines, tout le plan de mécanisation, par exemple, du monde agricole, c'est pour la biodiversité. Ce que fait le ministre de l'Agriculture à travers le plan de relance, avec des montants importants. Et on l'a dit, ce plan de relance, il est avant tout un plan de relance vert. La Commission européenne d'ailleurs l'a dit. Nous sommes le pays qui a mobilisé le plus de crédits à cet égard.
Qu'y a-t-il donc exactement dans le plan de relance ? Qui a raison ? Delphine Simon a vérifié.
Alors, tout le monde ne parle pas de la même chose lorsqu'il s'agit de biodiversité. Nicolas Hulot, lui, se réfère aux aides strictement liées au sujet dans le plan de relance, ce qui revient à 300 millions d'euros. Du côté de Bercy, on tourne plutôt autour des 2 milliards d'euros, en ajoutant la réhabilitation de friches industrielles, de quoi éviter d'artificialiser l'équivalent de 2500 stades de football. Il y a des aides pour la forêt, pour la rénovation des stations d'assainissement de l'eau ou pour le renouvellement des machines agricoles. Une partie permettra d'éviter l'usage de pesticides. Mais au-delà de la bataille de chiffres, la Fondation Nicolas Hulot veut rappeler que la biodiversité pèse moins d'un demi pour cent du budget de l'État, selon un rapport du CESE. L'occasion aussi de rappeler à Emmanuel Macron ses engagements à 9 mois de la présidentielle et avant les négociations qui s'ouvriront durant la présidence française de l'Union européenne le 1er janvier sur l'autorisation du glyphosate ou le vote de la nouvelle politique agricole commune.
Delphine Simon et un congrès mondial de la nature qui doit durer à Marseille jusqu'au 11 septembre.
Le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille avait commencé sur le thème de la sécurité, après la série de règlements de compte de l'été. Alors, question Hélène, y a-t-il du nouveau dans l'enquête ?
Eh bien oui, le ministère de l'Intérieur annonce un vaste coup de filet sur Twitter, dont l'un des fugitifs les plus recherchés de France, affirme Gérald Darmanin, soupçonné d'être impliqué dans l'un des règlements de compte l'été qui ont fait au total 12 morts. Conférence de presse aussi ce soir du procureur à Marseille, suivi par Hugo Charpentier.
C'est sans conteste un premier coup d'arrêt dans la guerre des territoires qui sévit depuis plusieurs semaines dans les quartiers nord de Marseille. La police judiciaire vient de frapper fort au cœur du conflit sanglant qui a fait 14 morts depuis le début de l'été. Un individu considéré par la PJ comme la tête de pont du narco-banditisme a été interpellé en début de semaine en région parisienne. En cavale depuis 2 ans, il était sous le coup de 2 très lourdes condamnations pour assassinat et trafic de drogue. Cet homme de 37 ans est soupçonné d'être à l'origine d'un double homicide dans la nuit du 21 au 22 août à la cité de la Marine Bleue. Deux autres hommes, soupçonnés eux aussi d'avoir participé à ce règlement de compte, ont également été interpellés hier et aujourd'hui à Marseille. Satisfaction pour Éric Arella, le patron de la PJ marseillaise.
Je pense qu'effectivement on peut dire qu'il s'agit d'un coup important qui est porté que dans la lutte contre le narco-banditisme. C'est une action au long cours que nous menons et vont amener des résultats. De façon effectivement à essayer de porter des coups les plus nombreux possibles aux équipes qui s'entretuent.
Au cours des investigations, des armes ont été saisies, dont une Kalachnikov dans un box appartenant à l'une des personnes interpellées. La preuve pour les enquêteurs que d'autres fusillades étaient en préparation.
Hugo Charpentier, le Grenelle contre les violences conjugales a 2 ans déjà. Jean Castex était venu faire le point dans la Manche sur son application aujourd'hui. Des solutions d'hébergement supplémentaires promises, des bracelets anti-rapprochement. Ce que le Premier ministre n'a pas évoqué en revanche, c'est la lutte contre les violences économiques. Un conjoint qui prend le contrôle des ressources du couple, qui touche le salaire de sa compagne, qui l'empêche de travailler, ça touche quand même 20% des personnes, majoritairement des femmes, qui appellent le 3919. Pas un mot du Premier ministre donc. Pourtant la France, comme une trentaine de pays, a ratifié la Convention d'Istanbul en 2014, le traité européen qui ancre ces violences économiques au cœur des violences intrafamiliales. Et c'est ce que rappelle Stéphanie Lamy du collectif Abandon de famille, tolérance zéro.
La France a ratifié en 2014 la Convention d'Istanbul qui, en sa définition même des violences domestiques, nomme les violences économiques comme une violence conjugale. Donc nous, on a ratifié une convention où on ne respecte même pas la définition des violences conjugales. Donc c'est très problématique.
La France, elle est en retard en la matière ?
La France est en retard par rapport à des pays africains même. Vous avez au Bénin des lois contre les violences économiques faites aux femmes et aux enfants, alors qu'en France, non. Nous, on milite pour définir ce que c'est. Donc ça, c'est la première étape. C'est tout acte qui vise à saper l'autonomie financière de la conjointe ou du conjoint, mais de la conjointe principalement. L'exemple le plus flagrant, c'est celui de refuser de payer les pensions alimentaires. Ce délit-là est de moins en moins sanctionné. D'ailleurs, il y a une déjudiciarisation de ce type de comportement à travers des mécanismes comme la CAF où les victimes sont malheureusement parquées dans un système d'allocation au lieu de l'État qui va faire en sorte que leurs droits sont respectés.
Stéphanie Lamy avec Winnie Claret. La politique et ce duel à distance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, invité à échanger par Robert Ménard, le maire de Béziers. Il ne voit pas les choses tout à fait de la même manière. La candidate du Rassemblement National a acceptant une rencontre privée, mais pas un débat public avec le polémiste qui entretient flou sur une éventuelle candidature et qui lui débattrait bien volontiers avec Marine Le Pen. Le différend est donc réglé entre l'Union européenne et AstraZeneca sur les livraisons de doses de vaccins anti-Covid. On se rappelle l'agacement de l'Europe au printemps dernier et ses accusations. Le géant pharmaceutique anglo-suédois était-il en train de privilégier les Britanniques au détriment de l'accord conclu avec la Commission européenne? L'Union européenne avait lancé une procédure judiciaire. Angélique Bois est notre correspondante à Bruxelles. Un accord a donc été trouvé aujourd'hui.
Une première audience judiciaire en référé au printemps n'avait pas tranché sur le fond du dossier. Les deux parties ont donc opté pour un compromis. AstraZeneca fournira bien les 200 millions de doses de vaccins manquantes pré-réservées par la Commission d'ici mars prochain, avec 9 mois de retard donc sur le calendrier initial. Mais ce contrat prévoit un engagement ferme cette fois et des pénalités financières en cas de retard. Le précédent accord stipulait que le labo devait simplement faire en quelque sorte de son mieux pour respecter les délais. C'est cette notion de « best effort » en anglais qui était au cœur de la procédure judiciaire. Mais que faire de ces doses tardives alors que la plupart des pays européens inondés de Pfizer n'ont plus à gérer de pénurie? La Commission dit en avoir besoin pour approvisionner le reste du monde via le mécanisme de solidarité COVAX. Ce vaccin, que l'on peut conserver au frigo, est en effet plus adapté aux pays en développement, en particulier ceux d'Afrique. Mais il est aussi crucial, dit la commissaire en charge du dossier, d'en recevoir encore pour certains États membres de l'Union, car certains pays de l'Est, à la traîne en termes de couverture vaccinale, avaient privilégié les vaccins AstraZeneca pour des raisons logistiques et de moindre coût. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Des vaccins sans rendez-vous ce week-end contre le Covid, ce sera possible samedi et dimanche dans tous les centres de vaccination ouverts, annonce tout à l'heure du ministre de la Santé. Et puis, au lendemain de la rentrée, alors que quelques classes de primaire ont dû fermer à cause d'un cas positif, le gouvernement reconnaît un petit problème. Les parents vaccinés seront moins bien indemnisés que les non-vaccinés s'ils doivent garder leur enfant, parce que les non-vaccinés seront mis en arrêt maladie, alors que ceux qui sont vaccinés seront en activité partielle, avec une rémunération plus faible. Le ministère du Travail est en train de chercher une solution pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Déjà en vigueur à Paris et à Lille, l'encadrement des loyers semble faire des petits. Plusieurs autres communes de gauche, essentiellement, vont expérimenter le dispositif dans quelques mois. Bordeaux, Montpellier et Lyon viennent d'obtenir l'accord du gouvernement. Le principe, c'est de plafonner les loyers pour éviter une flambée des prix. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
L'idée donc séduit de plus en plus.
Oui, le dispositif est même très attendu dans une ville comme Bordeaux où les prix n'ont cessé de grimper ces dernières années, où le marché locatif est ultra tendu. C'est d'ailleurs l'une des conditions pour intégrer l'expérimentation. En moyenne, explique la municipalité bordelaise, les locataires ont perdu là-bas 18 mètres carrés de superficie de logement en 4 ans pour un même niveau de loyer. À Bordeaux comme ailleurs, c'est la préfecture qui va chapeauter le système, recenser d'abord les loyers existants, établir ce qu'on appelle un loyer de référence par type de logement. Ensuite, si les propriétaires affichent des loyers 30% en dessous ou au-dessus, eh bien, ils devront justifier ces écarts, dire s'ils ont par exemple une très grande terrasse, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors le contrôle, pas de contrôle réel de ces loyers pour le moment, ce que réclament pourtant les villes concernées, mais la possibilité pour les locataires de saisir une commission de conciliation qui contacte les propriétaires et fait respecter le plafonnement, quitte à aller en justice. Ça marche, mais il faut la saisir. Parmi les villes candidates recalées, entre guillemets, et qui sont ce soir très déçues, voire mécontentes, il y a à noter ces villes, les villes de Grigny et de Grenoble.
Claire Chaudière, au rayon éco encore, l'usine Stellantis ex-PSA de Sochaux dans le Doubs suspend son équipe de nuit jusqu'à nouvel ordre. La pénurie de semi-conducteurs l'empêche de tourner à plein régime, a-t-on appris auprès de la direction.
On s'intéresse maintenant à la deuxième foire agricole de France, la foire de Châlons dans la Marne.
Oui, parce qu'elle reprend cette année après l'annulation de l'année dernière à cause du Covid. 270 000 visiteurs en 2019 quand même. Et combien cette fois? C'est toute la question. Aurélie Jacquon a rencontré des exposants impatients.
Il y en a une qui est très heureuse d'être là, c'est Nadine.
Oui, très content. Ouais, ça nous a manqué, franchement. Tu as le contact avec les gens, et voilà quoi.
Elle vient de Marseille pour vendre un coupe légumes.
Depuis que, c'est-à-dire la foire de Châlons, elle existe. La marque Borner, elle a toujours existé ici au Châlons.
Et donc c'est que ça vaut le coup de venir à la foire de Châlons?
Ah bah heureusement, sinon on ne reviendrait pas. Hein.
Les mauvaises années, c'est quand il y a les vendanges en même temps, dit-elle. Ce ne sera pas le cas cette année. Marie aussi a fait des kilomètres. Elle vient de Corrèze depuis 10 ans pour vendre ses sacs en cuir.
L'ambiance est sympa. Ça, c'est très très important pour nous. Puis, ma foi, on travaille quand même assez bien sur la foire de Chalon.
On ne saura pas combien lui coûte son stand.
Ça se dit pas.
Mais sa présence est essentielle parce qu'elle ne vend que sur des salons. Normalement, elle en fait 6 par an.
Depuis le mois de janvier 2020, on n'a pas travaillé, hein. Donc la foire de Chalon, qui est la première foire de reprise, ben nous sommes pleins d'espoir.
Traditionnellement, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui vendent de la nourriture. Carlos a 27 ans de foire de Chalon derrière lui. Il tient une boutique et un restaurant.
Comme ça, on travaille sur la journée entre la vente et la restauration. Nous, sinon, ça trop de frais pour faire que de la vente. Ou voilà, faut qu'il ait deux ici.
Il faut dire qu'avec lui, ils seront 10 venus du Tarn-et-Garonne pour les 10 jours que dure la foire.
Aurélie Jacquan, France Bleu et une foire donc qui dure jusqu'au 13 septembre. On suit l'US Open de tennis. Le Serbe Novak Djokovic facilement qualifié pour le troisième tour qui débute aujourd'hui. Et l'affiche du jour oppose le Grec troisième mondial Stéphane Tsitsipas à un jeune prodige, Carlos Alcaraz. Il est espagnol et ils sont nombreux à penser que c'est le prochain Rafael Nadal. Son portrait avec Fabrice Abgral.
Carlos Alcaraz vit avec cette pression depuis qu'il est passé professionnel en 2018. Il n'avait alors que 15 ans. Il en a aujourd'hui 18. Comme Nadal, à cet âge-là, il a remporté son tout premier tournoi en Croatie en juillet dernier. Carlos Alcaraz est un surdoué, entraîné par Juan Carlos Ferrero, vainqueur de Roland-Garros en 2003. Avant cette année, Carlos Alcaraz n'avait participé à aucun tournoi du Grand Chelem. Là, en 2021, il a joué les 4, dont l'Open d'Australie et Roland-Garros, en passant par les qualifications. Au début de l'année, il était 141e mondial, il est aujourd'hui 55e. Et pour beaucoup, il finira top 20 avant la fin de l'année. Mais lui, il ne veut pas brûler les étapes.
La vérité, c'est que je suis très heureux du niveau de jeu que je produis actuellement et de la maturité que je montre sur le court. Je pense que je suis quelqu'un d'autre, un autre joueur. Je progresse. Depuis le début de l'année, je suis heureux. J'avance à mon rythme, mais le plus important, c'est que je sens que je vais de l'avant. Je suis vraiment content.
Rafael Nadal a remporté le premier de ses 13 Roland-Garros en 2005, un an après avoir gagné son premier tournoi. Autant dire que Carlos Alcaraz est exactement dans les temps de passage que son glorieux aîné, mais de là à dire qu'il aura un jour le même palmarès, il y a une frontière que personne ne veut franchir, pas même Carlos Alcaraz.
Deux infos de sport encore en basket, le départ de la sélectionneuse de l'équipe féminine Valérie Garnier, elle occupait le poste depuis 8 ans. Et si vous aimez le rugby, vous pourrez regarder les prochaines Coupes du Monde sur TF1 qui vient d'acquérir l'intégralité des droits pour la Coupe du Monde féminine en 2022 et celle des hommes à l'automne 2023 qui se jouera en France. Un budget énorme, 165 millions d'euros, une sortie plusieurs fois reportée et donc un film plus qu'attendu à la Mostra de Venise. Dune est présenté ce soir, long métrage inspiré de la série de romans de science-fiction de Frank Herbert, signé Denis Villeneuve avec une pléiade de stars. Corinne Pellissier nous en donne un aperçu.
Comme Christopher Nolan avant lui et son Batman, Denis Villeneuve prouve ici que l'on peut faire un film d'auteur à grand spectacle, soigner le style et divertir en même temps avec une esthétique léchée, des paysages à couper le souffle et des scènes d'action explosives toujours au service de l'histoire et des personnages. Grand fan du romancier Frank Herbert, Denis Villeneuve respecte le mythe à la lettre dans une version à la fois plus moderne et plus lisible que le Dune de David Lynch sorti dans les années 80. Une intrigue efficace sur fond de guerre clanique et de trahison pour le contrôle d'une épice à des millénaires de nous sur la planète Arrakis. Plus pertinent que jamais dans son propos sur les questions d'écologie et de répartition des ressources. Ce nouveau film à l'atmosphère très sombre plante le décor d'une future grande saga de l'espace qui s'annonce prometteuse, notamment grâce à son casting. Timothée Chalamet, nouvelle coqueluche d'Hollywood dans le rôle de Paul Atreides, Oscar Isaac, Javier Bardem, Charlotte Rampling et la belle Zendaya qui devrait prendre toute sa place dans un deuxième volet. Aussi attendu que le prochain James Bond repoussé à plusieurs reprises, ce nouveau Dune a tout pour plaire et ramener le public dans les salles.
Le film est présenté hors compétition à Venise, sa sortie prévue le 15 septembre en France. Premier épisode donc peut-être d'une série, la Warner ose même rêver d'une saga à la Star Wars.
Vous savez les choses. Merci beaucoup Hélène Filly, on vous souhaite un très bon week-end. En plus, il va faire beau.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
L'été à de beaux restes.
Oui, alors vu le ressenti général sur les mois de juillet et les mois d'août, je vais quand même pas oser vous dire que l'été va jouer les prolongations. Et pourtant, la journée de demain ressemblera à une journée aux caractéristiques estivales, avec de belles éclaircies et du soleil, et des développements d'averses par endroits l'après-midi. En début de journée, il faudra quand même composer avec des nuages bas et des bandes brouillards entre la baie de Somme et les côtes nord de la Bretagne, ainsi que du piémont pyrénéen au Charente et au Midi-Toulousain, mais le ciel finira par se dégager. Quelques averses de fin de nuit seront encore possibles sur le centre du pays, mais c'est surtout l'après-midi que l'instabilité va se développer entre la Normandie, les Côtes d'Armor, le Limousin, l'Aveyron et la Lozère jusqu'au relief de l'Est. Ces averses ne sont pas généralisées, elles pourront être bien actives par endroits, orageuses et même stationnaires. En revanche, le soleil lui régnera tout au long de la journée sur le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la vallée du Rhône ainsi que du Grand Est au Hauts-de-France.
Et les températures plutôt douces pour la saison ?
Oui, les maximales prendront aussi des saveurs estivales demain, mais sans chaleur excessive. Les températures seront quand même souvent 2 à 6 degrés au-dessus des normales saisonnières, comme à Paris où la normale est de 22 degrés alors qu'il fera 28 degrés demain après-midi. Température déjà atteinte d'ailleurs aujourd'hui. Prévoyez 28 degrés également à Toulouse et à Marseille, 27 degrés à Mulhouse, Lyon, Agen, Nice et Ajaccio, 26 degrés pour Perpignan, Nancy et Nevers, 25 degrés à Brest, Nantes et à Lille et 24 degrés à Caen, Limoges et à Biarritz. Et un petit secret clair, dimanche sera encore plus chaud et encore plus ensoleillé, les averses devenant très rares et touchant surtout le relief du quart sud-est.
On aime bien vos petits secrets. Merci Sébastien Léas.